Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Nos regards se sont croisés par hasard dans un magasin bio à Paris. Né au Cambodge et exilé en France dans les années 1975, Bouni est aujourd'hui devenu le responsable d'un magasin. La voix tranquille et le regard bienveillant, nous avons échangé sur son parcours et sur son approche de l'agriculture biologique en France et dans le monde.
Ah non, quand je suis arrivé en France, tout de suite le pays était coupé, fermé de tous les journalistes et tout le reste. Et le Cambodge restait un pays complètement fermé pendant toute la période d'occupation des Khmers Rouges, c'est-à-dire 4 ans et demi.
Donc pas de nouvelles de votre famille à ce moment-là?
Non, ma famille, quand j'ai quitté ma famille le 13 avril au matin, je leur dis au revoir à la façon cambodgienne. Comme les prières bouddhistes. Et depuis ce temps-là, c'est terminé. Je ne les vois plus et je ne sais plus où sont-ils, que deviennent-ils, rien du tout. C'est-à-dire, je n'ai plus de nouvelles, plus d'informations, plus de traces, plus rien. C'est terminé, on tourne la page.
Voilà. Avec une volonté d'avoir essayé de les retrouver quelques années plus tard en retournant là-bas, ou non, vraiment envie de se reconstruire et refaire autre chose, recommencer sa vie?
Mais écoutez, je trouve que c'est un devoir, si vous voulez, de chercher ses proches. J'ai mes frères, j'ai deux frères qui sont en France aussi. On s'est forcé justement à les trouver par des différents canaux, mais jusqu'à maintenant on n'a pas de traces, ou des traces mais qui sont pas très précises, et on n'a plus de nouvelles, plus rien quoi. En quelque sorte, c'est moi, j'ai mes parents, j'ai un frère, une sœur, une nièce et ma grand-mère évidemment, mais oui, nous, ça fait déjà, vous voyez, dans 1975, et on est combien d'années, 36 ans des cas, nous sommes en 2011. Mon père, ça m'étonnerait qu'il soit encore vivant. Il avait plus de 60 ans à l'époque, donc 36 ans après, il sera jamais centenaire avec toutes les conditions de vie imposé par les Khmers Rouges, il ne sera jamais centenaire. Ma maman non plus, je ne pense pas. Et alors, l'espoir, c'est plutôt sur ma sœur et mon frangin, mon cadet, mon frère cadet. Ils peuvent rester vivants, mais comment les trouver? De quelle manière? Jusqu'à maintenant, c'était impossible. On a passé dans les radios cambodgien pour annoncer, pour faire la recherche. On a même donné aux pisteurs, aux gens qui sont spécialisés dans la recherche des personnes comme ça, égarées, perdues. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de nouvelles, quoi. On n'a plus rien. Et on a très peu d'espoir.
Alors aujourd'hui, en arrivant en France, vous me dites que vous y aviez fait médecine, une école de médecine. Aujourd'hui, vous êtes le gérant d'un magasin, d'un biocoop. Ici à Paris, comment vous avez réussi tout ça? Parce que c'est un sacré parcours quand même. C'est pas simple d'arriver dans un pays où on ne connaît pas la culture, on ne connaît pas la langue. Il y a un réel effort d'intégration à faire.
Je pense que c'est... Effectivement, il y a une réelle motivation et d'intégration et de vouloir de vraiment revivre et rebâtir quelque chose. Je pense que c'est... Il y a deux aspects dans tout ça. C'est le fait de fuir la souffrance en remplaçant, mais ça je parle bien de la fuite, en remplaçant par une occupation professionnelle plus intense, et comme ça on a moins de temps de cogiter dans la souffrance. Ça, c'est le, on peut dire que c'est, je pense que je suis une partie comme ça. Deuxième partie également, c'est la volonté et ma personnalité de avancer dans la vie et de ne pas laisser abattre par ce qui m'arrive ou par les événements de la vie, et que on est tous les uns les autres subis. Et voilà, donc c'est les deux choses. Et pourquoi cette intégration? Parce que j'aime ce pays, j'aime la France. C'est un pays que je trouve merveilleux, qui m'a donné beaucoup d'espoir de vivre et de progresser aussi, parce que quand on en veut et quand on veut réussir, je pense que malgré toutes les difficultés rencontrées, hein, le système n'est pas parfait, mais on peut réussir, on peut arriver, on peut faire quelque chose. Et il y a quand même beaucoup d'atouts et beaucoup de, si j'ose dire, beaucoup de possibilités. Alors, dans les pays où, malgré qu'on a envie de réussir, avec la volonté de travail et la volonté de s'en sortir, on n'est pas parvenu, parce que le système vous bloque et vous étouffe complètement. C'est pas du tout le cas ici. C'est que, bon, rien n'est parfait, hein. Encore une fois, on voit des défauts dans le système français, et même les autres systèmes sont aussi pareils. C'est, rien n'est parfait. Mais par contre, quand on souhaite aller au-delà et réussir et s'intégrer dans ce pays, et ça, merci la. Mes proches comme vous, comme voilà Alexandre en face de moi qui est en train de m'interviewer, ou même d'autres personnes qui m'ont aidé à progresser et qui m'acceptent et qui me comprennent. Et ça, c'est énorme, c'est au-delà de ce que je souhaite voir. C'est que et ça, cette sympathie, cet accueil ou cette compassion, je dois beaucoup de choses à ce peuple et à ce pays, parce que j'estime que il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond, et le fait d'accueillir, c'est ça, le sujet d'intégration, le sujet d'immigration, ça me fait à la fois mal au cœur et ça me fait la peine. Et en même temps, je trouve que dans ce pays, il y a une diversité de pensées et cette liberté qui est extraordinaire. C'est qu'il y a une partie de la population qui refuse l'immigration et d'autres parties qui accueillent à bras ouverts. Et ça, je trouve génial, quoi. C'est vraiment génial. C'est à la fois pour prouver que, et c'est en ce qui me concerne, et c'est un des exemples que je peux dire, que quand je suis arrivé en France, je cherche du travail. Et le jour d'aujourd'hui, j'embauche les gens. Et je fais vivre les familles françaises. Mais ça, ce n'est pas une question de fierté de dire ça. C'est tout simplement pour dire que, à mon tour, j'ai un devoir. Et je dois donner quelque chose à ce pays, à mon tour. Et il m'a beaucoup donné, et maintenant c'est à moi de lui rendre la main, et en même temps lui rendre aussi ce que je lui dois. Et ça, je trouve tout à fait normal et naturel. de le faire. Et je suis plutôt là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que si je suis capable de faire ça et beaucoup encore, je suis fier de moi. Pas fier dans le sens de fierté, mais fier dans le sens où, quand je suis arrivé, je peinais à chercher du boulot. Et je vous raconte une histoire. C'est qu'un matin, j'ai lu dans le Figaro, parce qu'on cherche du boulot dans le Figaro à l'époque. Et alors, c'est marqué « un employé cherche un employeur ». Alors, je ne fais aucune distinction entre le mot « employé » et « employeur ». Donc, j'ai réveillé le jeune homme, enfin le jeune homme ou le bonhomme à l'époque, qui donc cherchait du boulot, parce qu'il passait l'annonce pour chercher du travail. Moi, sans comprendre le mot « employé » et « employeur », je le réveillais et on a discuté au téléphone facilement 20 minutes pour comprendre finalement, lui aussi cherchait du boulot au même titre que moi, vous voyez. Et voilà, donc c'était rigolo, quoi. Donc finalement, le jour aujourd'hui, j'ai une dizaine de personnes avec moi et j'espère progresser au-delà très rapidement. Et ça, je trouve que c'est bien. Et si tout le monde, tous les réfugiés politiques ou les immigrés arrivent, je pense qu'il y en a beaucoup qui arrivent. Et ça, c'est plutôt un aspect intégration et aussi réussite. Et en même temps, c'est pas un devoir en soi, on peut pas dire le devoir, mais c'est qu'on peut rendre à la France qu'elle nous a beaucoup tant donné. Voilà.
Vous parliez de diversité ou d'interculturalité. Selon vous, qu'est-ce que ça apporte, le fait d'avoir deux cultures, donc d'arriver d'un pays, d'arriver dans une nouvelle culture, avoir tout à réapprendre? Est-ce que ça permet d'avoir du recul par rapport à son propre pays ou par rapport à soi? Qu'est-ce que ça offre, cette interculturalité? Qu'est-ce que ça apporte?
Je pense que c'est ça la notion de... Et encore une fois, l'interculture ou interculturelle, moi je pense que c'est quelque chose de très riche pour un être qui a pu vivre sur deux cultures différentes. Vous imaginez déjà le voyage, si vous faites un voyage, disons un voyage conscience, et cherchez à comprendre auprès d'un autre peuple, c'est déjà une richesse énorme. Et la dimension d'avoir vécu 19 ans dans un pays comme le Cambodge et arriver ici et avoir vécu là, j'ai vécu 36-37 ans en France, c'est une richesse extraordinaire. C'est que votre cerveau, votre cerveau culturel est divisé déjà en deux ou en trois. C'est que vous enrichissez énormément en termes de pensée, en termes de l'analyse de toutes sortes, linguistiques, ou même la manière de réfléchir. Vous pouvez penser à la fois à la manière cambodgienne et aussi à la manière française, vous voyez. Donc et cette richesse-là, c'est unique. Pour ceux qui ont vécu ça, c'est une chance. C'est une chance énorme. Et que je ne dirais pas que le monoculture n'est pas une richesse en soi, mais les biculturels ou multiculturels, c'est une richesse que vous n'êtes pas besoin de trop forcer. C'est que vous laissez la cour de votre vie et de votre vécu s'étaler et vous recueillir la richesse naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et que sinon, quand on a une monoculture, on fait le voyage, on s'efforce à comprendre l'autre. Et cet effort d'aller comprendre l'autre par le voyage n'est pas du tout la même chose que d'avoir vécu 19 ans. Et surtout d'avoir vécu une histoire aussi riche que le Cambodge, que les Khmers Rouges, que le Norodom Sihanouk et tout le reste. Et ça, je trouve, c'est une chance extraordinaire que j'ai.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage. Regarde ailleurs. Chemin le plus court pour se découvrir soi.
J'ai constaté, il y a pas mal de mes compatriotes qui ont vécu des épreuves dures, même plus dures encore par rapport à la mienne. Et pourtant, en arrivant en Occident, notamment en arrivant en France, ils ont oublié rapidement cette épreuve de vie et tout de suite laisser dominé ou apprivoisé par le soif de consommation matérielle ou le soif de gagner et d'enrichir à une vitesse grand V. Et ça, je trouve très, très triste. Et effectivement, d'avoir vécu des épreuves aussi dures, aussi difficiles dans la vie, mais ça vous permet justement de grandir. Et qu'est-ce que ça veut dire de grandir? C'est tout simplement de pouvoir aller à l'essentiel et pouvoir aller... Et l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est plutôt toutes les valeurs qui ne sont pas des valeurs inutiles matérielles, comme nous connaissons tous, et c'est plutôt la valeur humaine. Et que, oui, effectivement, sur ce plan-là, j'ai pleinement profité. J'ai pleinement grandi... Et d'où l'ouverture de Biocop, d'où la reconversion de mon ex-métier ingénieur en informatique et organisation vers la gérance d'un Biocop pour devenir épicier bio.
Voilà, c'était ma question suivante. Hein. Donc bio, ça vient de biologique, bios, hein. Bios, le vivant, le monde vivant. Donc est-ce que c'est un hasard d'être aujourd'hui dans cet univers-là, qui est aussi un monde un peu un monde dans un monde?
Oui, tout à fait, parce que le mot, effectivement, bio, c'est la vie, et pourquoi je suis arrivé dans ce monde bio, parce que j'estime que il y a plusieurs aspects. Je fais toujours très très rapidement au parallélisme ou bien à la pensée de Gautama, de Bouddha. Il y a beaucoup de choses dans l'éthique bio qui correspond à cette pensée bouddhiste. Que selon moi, je ne sais pas si c'est valable que pour moi, mais le fait de pousser vers le végétarien. Un vrai bouddhiste, un bouddhiste Mahayana, ou le bouddhiste tibétain, ou les pas mal de tendances bouddhistes, sauf les bouddhistes asiatiques, les bouddhistes sud-est asiatiques, qui sont plutôt carnivores et qui ont peu d'hygiène de vie en termes de nourriture, en termes de diététiquement parlant, c'est pas top, parce qu'ils mangent tout ce qu'ils trouvent sur la table avec des offrandes de la population. Alors que dans le bouddhiste Mahayana, ils sont très stricts dans l'alimentation et que ce que nous faisons, nous, dans le milieu biologique. La bio, pour moi, c'est à la fois, comme dit l'éthique du réseau Biocop, c'est promouvoir l'agriculture biologique dans l'environnement, dans éviter les pesticides, éviter beaucoup de choses. Ça, c'est une chose que je suis plus que d'accord, entièrement d'accord, c'est pourquoi je suis là. Au-delà, c'est également c'est le respect, tout simplement, de l'homme à l'homme, tout simplement. C'est que si on prend soin de produire les produits de qualité, dans les produits non pesticides, non insecticides, ainsi de suite, c'est déjà respecter la vie dans sa globalité, la vie systémique. C'est-à-dire de ne pas vouloir tuer les vers, c'est respecter la vie des vers. De ne pas vouloir tuer les abeilles parce qu'on ne va pas mettre des pesticides dans les champs. Donc on va conserver les abeilles, donc il y a un système de protection de l'ensemble des insectes et tous les qui nous aident, nous, à notre tour, de vivre correctement et sans maladie. Et ce que nous voyons à l'heure actuelle dans les consommations industrielles. Et cet aspect de vie dans son aspect plus large, c'est ça que j'apprécie, parce que je trouve ça, cette idée est vraiment très proche du bouddhisme. Dans le bouddhisme, on ne tue pas les bêtes, on respecte la vie. Et dans la bio, c'est la même chose. On ne tue pas les chenilles, on ne tue pas les abeilles, on ne tue pas les pesticides. On essaie de cultiver des plantes répulsives, où on fait des couplages des plants dans le jardin de manière à faire fuir des vers ou des chenilles ou des limaces qui viennent manger des salades ou des tomates. Alors, ce type de raisonnement correspond parfaitement à ce que j'attends et à ce que je veux.
Et c'est peut-être finalement la conscience, quand on a conscience d'être, quand on a conscience de ce qu'on est, on devient aussi conscient qu'on est dépendant ou interdépendant des autres êtres vivants et de la matrice, de la terre, mère nourricière. Et je crois que quand on a conscience de ça, ça devient cohérent, logique, et c'est une question de bon sens que de prendre soin de la vie autour de nous et des écosystèmes qui nous nourrit.
Oui, parfaitement, parfaitement, parce que c'est ce que vous dites là est très très juste, parce que on oublie souvent que l'homme, on est un des composants de cette nature. On n'est pas sorti de cette nature. L'homme considère la nature comme un élément exogène qui n'est pas propre à lui-même, alors que l'homme en fait partie. Et on est né de la nature et on va mourir un jour et on devient compost, on devient matière, voyez. Donc, mais en passant, en étant vivant avec son petit intelligent raisonné, il a oublié son origine souvent. C'est ça le drame. Et il ne voit pas l'essentiel. Et que beaucoup de penseurs et beaucoup de grands hommes voient l'essentiel. Et ça, je trouve que c'est dommage de s'oublier, d'une part. Parce que quand on comprend qu'on fait partie de la nature, on accepte plus naturellement ce qui nous entoure. Et on a beaucoup plus de tolérance envers l'environnement, envers la nature et envers ses proches. Alors que si on pense qu'on est vraiment l'extraterrestre et on est dehors de la nature, mais on rejette et on punit et on méprise la nature. Et ça, c'est atroce. C'est aucun respect. Il y a aucun respect. Ce non-respect, un jour, on va payer très cher. Et que la personne ne comprenne pas ça, quoi. Et ça, je trouve dommage que pour nous, qu'on peut laisser dans la future génération, et c'est notre devoir également de laisser quelque chose de correct ou convenable. Mais jusqu'à maintenant, avec toutes les centrales nucléaires avec tous les progrès dans les mœurs, dans la mentalité, dans la façon de consommer, dans le relationnel, dans beaucoup de choses, malgré l'Internet, malgré tous les progrès que nous avons eus, je pense que l'aspect, ce qu'il va falloir, et ce que j'espère fondamentalement et fortement, que ça progresse vite, c'est la spiritualité. Comme nous sommes ensemble aujourd'hui, avec vous, Alexandre, c'est grâce à cette sensibilité spirituelle que j'ai pour vous. Et que je vous accepte comme mes proches, comme mon entourage, comme ma nature, et que je n'ai pas droit de vous fermer la porte.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage. Regarde ailleurs. Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au Cambodge. La France, c'est un des pays pionniers, moins que l'Allemagne et l'Autriche ou la Suisse, ou des pays qui sont très avancés dans l'agriculture biologique. Le courant de Steiner, par exemple, en Allemagne, daté de très très... très vieux avant la Seconde Guerre mondiale, d'où le goût de Demeter. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans le pays du sud-est asiatique. La prise de conscience n'est pas là, c'est loin d'être le cas, et tout est mesuré sur la consommation et sur les bénéfices en dollars. Et ça, il faut être très très prudent. C'est le même phénomène de l'industrialisation de l'agriculture en Europe. C'est que vous avez un lobbying énorme, des influences énormes sur l'agriculture, et il va falloir faire basculer ce type de mentalité vers un respect des uns des autres, et notamment aux producteurs, aux paysans cambodgiens. Parce que quand on les voit travailler, quand on les voit vivre, mais il y a quoi pleurer, quoi. C'est que c'est vraiment dans la pauvreté extrême et avec peu de récompenses. Et tout ça, c'est pour les marchands de biens qui viennent acheter et vendre quadruplé et multiplié par 10 le prix à l'étranger ou même dans le pays, et que les paysans khmers qui cultivent la terre n'ont peu de moyens pour vivre. Et ça, il va falloir changer. Et je pense que c'est pas si simple. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de chemin à parcourir, et il y a beaucoup de courage et motivation aussi à voir pour arriver à faire quelque chose de juste, plus équitable et plus biologique. Voilà.
Donc on va juste terminer, j'ai envie de dire ça, que finalement le pouvoir, on en a un, tous, le pouvoir d'achat, c'est nous qui choisissons notre façon de consommer, notre façon de vivre, notre façon d'être. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à l'information assez facilement, donc on peut savoir quelles sont les répercussions de nos actes. Donc peut-être que c'est ça finalement aussi la spiritualité, c'est comprendre quel est l'impact et l'influence de nos actes quotidiens sur nous et sur le monde qui nous environne. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci.
Et à plus tard.
À plus tard, merci Alexandre.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet www.regardailleurs.org.